épelleront les années de ton nom. À vivre sous mon toit, il me semble parfois que je t'avais perdu. Je vais te retrouver, je vais me retrouver dans chacun de tes gestes. On s'est quitté parents, on se retrouve amis. Ce sera mieux qu'avant, je n'aurai pas vieilli. Je viendrai simplement partager tes 20 ans, mon enfant, mon petit. Bonne route sur le chemin de la vie.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Libertaire, c'est GMC+, et ce soir nous vous proposons une rediffusion particulière pour ce premier mois d'été. Il s'agit de la première émission de GMC+, celle du 14 mars 2024, qui était consacrée, comme je l'avais dit, à Bèbe le Cochon, mais plus particulièrement à Camille Saint-Saëns. Voilà. Eh bien, écoutez, passez un bel été et profitez de cette rediffusion. Bye bye, à très bientôt pour d'autres aventures musicales sur GMC+. Et c'était Yves, et c'est une émission évidemment enregistrée. Bonsoir, c'est Gabriel, Maurice, Claude et les autres. Alors, j'imagine que vous avez reconnu ma voix. C'est la même voix que Jazz Lib et c'est la même équipe avec Laurent à la technique que nous saluons. Alors, Gabriel, Maurice, Claude et les autres est une nouvelle émission que j'avais en tête depuis un petit moment, mais je n'osais pas franchir le cap pour diverses raisons. Et en fait, alors Gabriel, Maurice, Claude et les autres, ou GMC+, en abréviation, vous avez l'information sur le site de la radio. J'en profite pour vous dire que vous êtes évidemment sur Radio Libertaire, que vous devez télécharger le numéro de le bon de souscription pour nous soutenir, que le numéro du studio c'est 01 43 71 89 40. Vous êtes sur 4... Alors oui, l'information importante, c'est que nous sommes passés en DAB+, si vous êtes équipé, que également le podcast est écoutable tout de suite après l'émission ou téléchargeable pendant un an. Et donc, vous êtes sur 89.4 FM, la radio de la Fédération anarchiste. Alors, Gabriel, Maurice, Claude et les autres, quatesque. Eh bien, Gabriel, c'est Fauré, Maurice, c'est Ravel, et Claude, c'est Debussy. Et les autres? Alors, pourquoi les autres? Parce qu'il y en a beaucoup. Et l'idée, c'est que j'avais envie de vous faire partager les trésors de la musique française de la fin du 19e siècle jusqu'à peu près entre les deux guerres. Car il s'agit de musiciens qui ont compté pour beaucoup dans, je dirais, pas la révolution, mais enfin, ils ont vraiment complètement transformé la manière qu'avaient les classiques, entre guillemets, de penser l'harmonie, la masse orchestrale, la mélodie, et avec vraiment une autre vision des choses. Et surtout, ils ont été influencés par beaucoup de choses. Ils se sont tous influencés les uns les autres, mais pas que sur la musique, également sur la peinture, la sculpture, la poésie, même la politique. Enfin voilà, c'est un bouillon de culture, ce début du XXe siècle, avec des musiciens tout à fait remarquables. Et j'ai mis les autres parce que nous ferons, si nous avons le temps, quelques détours par la Russie, la Hongrie, les États-Unis, la Suède, la Norvège, enfin bon voilà, un petit peu le tour de l'Europe et outre-Atlantique, parce que c'est pareil, il y a beaucoup de compositeurs et compositrices, je le dis également parce que nous aurons aussi des compositrices, alors elles sont moins visible, hélas, que les autres, mais je pense évidemment à Germaine Taillefer notamment, mais pas que. Alors, ce soir, nous allons commencer par une petite boutade sur la présentation de l'émission. Il y a marqué que nous avons rendez-vous avec Beb le cochon berger. Alors, si vous avez vu ce film, vous n'avez peut-être sans doute pas fait attention à la musique, mais je vais vous passer le tout début de la bande-son de ce film, qui est un film assez rigolo, enfin, qui commence assez tristement d'ailleurs, enfin, même un peu dramatiquement. Et puis, tout de suite s'installe un certain climat, un certain son, une certaine mélodie. Et voilà, je vous laisse découvrir cette petite chose et après je vous reparle. C'est parti, Laurent.
This is a tale about an unprejudiced heart and how it changed our valley forever. There was a time not so long ago when pigs were afforded no respect except by other pigs. They lived their whole lives in a cruel and sunless world.
Alors, vous avez
Ça commence façon un peu musique d'Harry Potter. Mais la musique d'Harry Potter a été également pompée sur Debussy. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez rigolo, d'un double détente, hein, c'est un peu l'effet qui se coule. Alors le narrateur la raconte que des histoires de cochons étaient très tristes, hein, parce qu'ils allaient au paradis des cochons assez vite, enfin bon. Mais que pour un petit cochon, les choses allaient se passer très très différemment. Et il y a donc, on entend derrière, avec ce côté un petit peu presque dessin animé, de cette musique, on entend le thème qui va arriver après. Et alors, le compositeur, l'arrangeur de la musique de Bébé le Cochon a donc utilisé la symphonie numéro 3 en ut mineur, opus 78, dite symphonie pour orgue de Camille Saint-Saëns, qui avait été écrite en 1885 et 86. Et vous allez voir ce qu'il va faire sur le générique de fin. C'est assez, assez destroy, c'est assez rigolo. Voilà, c'est parti Laurent, pour écouter la manière dont il s'est emparé de ce thème. One and two and three, hit it. C'est comme ça que, si vous vous souvenez de ce film, vous pouvez le regarder. Bien donc voilà, c'est non pas le massacre du printemps, mais le massacre de Saint-Saëns. Alors, voilà, on va donc revenir sur l'œuvre principale que nous allons donc écouter ce soir, cette symphonie pour orgue. Alors, il faut dire, je vais commencer par deux, trois mots à propos de Camille Saint-Saëns, parce que il y en a évidemment tellement, tellement à dire. On va faire essayer d'être le plus simple possible. Camille Saint-Saëns est né le 9 octobre 1835 et il est mort le 16 décembre 1921. Alors, il a composé quasiment un peu plus de 600 œuvres. Donc vous imaginez que nous serons tous morts avant d'avoir tout écouté, dire à quel point il était vraiment prolifique. Et il a été très 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 vite, il a eu du succès et à la fin de sa carrière, il a été assez critiqué pour son classicisme, alors qu'il l'était au départ pas trop. Alors Camille Saint-Saëns est un surdoué, vraiment un surdoué. Il commence à étudier la musique à 3 ans, à 5 ans, il connaît tout Bach par cœur, à 12 ans, il est quasiment professionnel, et à 18 ans, il a la chaire d'orgue à l'église de, je ne sais plus, parce que c'est un organiste, un des meilleurs organistes de son époque, donc je vous retrouverai tout ça, je referai une biographie, je vais essayer d'aller le plus vite possible, et donc... il est non seulement doué en musique, mais également en mathématiques, en philosophie, en astronomie, en grec, en latin. Voilà, il a voyagé un petit peu partout. Il a eu beaucoup de succès aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment un musicien absolument sidérant, incroyable, très prolifique. Et donc voilà, il est mort à Alger le 16 décembre 1921. Et donc, c'est un musicien qui a consacré toute sa vie à la musique. Et Schoenberg disait d'ailleurs de lui qu'il était vraiment un enfant prodige au même titre que pouvait l'être Mozart. Bon, c'est pour dire à quel point c'était vraiment un musicien absolument sidérant. Mais bon, il tombe aussi... dans des circonstances un peu particulières, comme il est à la, comment dire, maître de l'orgue dans une cathédrale, dans une église à Paris, sous la direction d'un prêtre pendant la Commune. Le prêtre est assassiné par les communards, ce qui personnellement ne m'a pas spécialement dérangé, mais du coup il est un peu embêté, donc il part en Angleterre. Et il reviendra. Alors c'est quelqu'un qui est croyant, mais qui, à un moment donné de sa vie, a un peu rompu avec la liturgie, la hiérarchie, le dogmatisme de l'Église catholique. Ça, vraiment, ça lui plaisait pas du tout, et je pense que c'est une chose sur laquelle il sera important de revenir. Alors maintenant, nous allons, parce que le temps passe très vite maintenant, avec une heure et demie seulement de musique, je voudrais revenir sur ce que nous allons écouter. Donc, Beb le cochon a utilisé cette musique de Saint-Saëns, mais elle a été utilisée pour beaucoup d'autres choses, dans d'autres films, dans des séries, dans des publicités. Enfin bon, voilà, c'est un petit peu, je dirais, la loi du genre de réutiliser la musique classique. Alors, je vais vous faire écouter la version que je trouve une des meilleures versions. Et bon, alors en plus, je ne suis pas un musicien classique, hein, puisque évidemment, vous me connaissez l'émission Jazz Lib, donc qui est vraiment plus mon terrain. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que beaucoup de ces musiciens ont été influencés évidemment par beaucoup de choses, mais certains ont été influencés par le jazz. Et notamment, Ravel avait dit en 1928 que le jazz était une musique que les Américains ne prenaient pas suffisamment au sérieux, mais qu'il estimait, à juste titre d'ailleurs, que le jazz serait la grande musique nationale américaine. C'est vraiment extrêmement visionnaire de la part de Ravel. Et beaucoup de jazzmen se sont, revendiquer d'avoir utilisé l'harmonie des musiciens comme Debussy, comme Ravel ou comme Fauré. D'ailleurs, il y a beaucoup de jazzmen qui ont réarrangé des morceaux de ces musiciens. Je pense évidemment à Bill Evans, certes, à Fred Hirsch, mais aussi un musicien allemand dont le nom m'échappe là tout de suite, mais qui avait vraiment fait tout un réarrangement des œuvres pour piano de Fauré en jazz. Donc, la symphonie pour orgue numéro 3 en ut mineur. Ut, c'est le do. Hein, c'est en fait, je vous avais déjà dit ça, que Guy d'Arezzo, autour de l'an 1000, avait normalisé la notation latine des notes do ré mi fa sol la si do, qui sont les premières syllabes d'un verset dont je ne me souviens plus exactement, mais je vous le redirai. Et ut est l'ancien mot du do. Voilà, donc do mineur. Et donc, en fait, il s'agit d'une commande de la Royal Philharmonic Society de Londres, et il a été créé le 19 mai 1886. 19 mai, comme vous le savez, jour de la Saint-Yves. Voilà. Donc, je ne vous ai pas choisi cette œuvre non plus par hasard. La création française a eu lieu, elle, à Paris, en janvier 1887, sous la direction de Jules Garcin, avec l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, et avec Saint-Saëns à l'orgue. Alors, petit détail phonétique, Saint-Saëns voulait que l'on prononçât son nom à l'ancienne, c'est-à-dire Saint-Saëns. Mais évidemment, le temps a passé et on prononce maintenant plus facilement Saint-Saëns. Mais comme il a composé 600 œuvres, 600, vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà. Alors, cette symphonie dure en général de 35 à 40 minutes et elle est en deux parties. La première, qui s'appelle l'Adagio, avec deux sous-parties, une Allegro Moderato et une Poco Adagio, et la deuxième, Allegro Moderato, avec deux sous-parties, Presto Maestoso et Allegro. Voilà. Donc nous allons écouter la première partie donc de l'Adagio avec l'orchestre sous la direction d'Eugène Normandie, avec je ne sais plus, je vous le redirai tout à l'heure. Muret. Oui. Murray à l'orgue, et ça a été enregistré dans une cathédrale qui a été un peu préparée à New York, qui a été préparée de façon à ce qu'il y ait peu de réverbération, et je crois d'ailleurs, il me semble que Leonard Bernstein a lui aussi enregistré dans cette cathédrale. Voilà, c'est parti Laurent.
Thank you.
Gabriel, Maurice Claude et les autres sur Radio Libertaire 89.4. Alors, je vais rectifier tout de suite deux, trois bêtises. La première, c'est qu'il s'agit donc de l'orchestre de Philadelphie avec Michael Murray à l'orgue, dirigé par Eugène Ormandie. Et donc, c'était pas du tout à New York. Ça a été enregistré le 6 février 1980 à la cathédrale Saint-François de Sales de Philadelphie. Juste pour préciser deux, trois choses, Eugène Ormandie donc, a été directeur musical de cet orchestre, qui, celui qui a pris la suite, c'était Riccardo Muti. Voilà, ceci pour préciser. Alors, autre chose qu'il faut noter, c'est que cette symphonie a été dédiée à la mémoire de Franz Liszt, qui était son ami et qui était qui Liszt est mort le 31 juillet 1886. Il faut également donner deux trois informations importantes qui sont sur l'instrumentation, parce que même si là on l'entend pas, parce que c'est, je dirais, un orchestre classique dans le sens traditionnel de la composition, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à noter. Alors, donc c'est un grand orchestre avec trois flûtes, avec doublé avec un piccolo. Piccolo, c'est une toute petite flûte avec un son plus aigu à l'octave. Deux hautbois, des cors anglais, des clarinettes basses, des bassons, deux bassons, des contrebassons, des cors, quatre, trois trompettes, trois trombones, tuba, tympani. Alors tympani, c'est des sortes de grosses timbales de percussion, triangle, bon, vous savez, vous connaissez ça, hein, petit instrument métallique en triangle, des cymbales, des grosses caisses et un piano avec deux et quatre mains, et un orgue et des cordes. Alors, l'utilisation du piano à deux et quatre mains dans le dernier mouvement que nous avons écouté, c'est assez rare, parce que souvent, dans les orchestrations de ce type, le piano est plutôt un instrument soliste, ou l'orgue est un instrument soliste, ou même quand c'est un concerto pour violon, eh bien, c'est le violon, premier violon, qui est le soliste, ou un soliste violoniste invité, ou alors avec un violoncelle, enfin bon, donc un instrument soliste. Et là, en réalité, ce piano à deux et quatre mains plus orgue ne sont pas solistes. Et c'est ça, c'est tout à fait intéressant, et c'est assez nouveau. Alors, autre chose qu'il faut aussi dire dans la conception de Saint-Saëns, c'est que il était à l'époque de bon ton d'être très wagnérien, et même si Saint-Saëns aimait Wagner, il s'est toujours réclamé du non-wagnérisme, c'est-à-dire que sa vision romantique, et c'est ça. Et c'est aussi pour ça que je fais cette émission, c'est aussi parce que la vision des compositeurs français est en rupture avec, j'allais dire, le pompiérisme, enfin, en ce qui me concerne, hein, je parle pour moi, le pompiérisme et la lourdeur allemande. Même si, évidemment, Beethoven, il y a des choses fantastiques, surtout les dernières œuvres de Beethoven, lorsqu'il était dans une surdité complète et coupé du monde, il arrivait presque à des solutions de musique qu'on pourrait appeler presque de la musique contemporaine. Mais donc, les Français sont en rupture avec ça. Et malgré tout, Saint-Saëns, qui, suite à la guerre de 70, a nourri un sentiment anti-allemand, qui a d'ailleurs été critiqué par Debussy, par Fauré et Maurice Ravel, bien qu'ils admiraient Saint-Saëns, l'ont aussi critiqué par ce sentiment anti-allemand qui devenait un peu trop nationaliste français. Mais bon, donc finalement, d'une certaine manière, ça a aussi créé cette rupture anti-romantisme allemand. Et la vision romantique de Saint-Saëns, elle est vraiment une vision avec l'esprit français. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long des compositions de ces musiciens hexagonaux. Alors, voilà, je voulais vous dire ça, parce qu'évidemment, le temps passant extrêmement vite, il est difficile de tout dire, mais comme il y a beaucoup de choses que je vais vous faire écouter de Saint-Saëns, parce qu'il y a aussi des choses connues, notamment le Carnaval des animaux, ça, il faudra qu'on y revienne, mais voilà. D'ailleurs, ce soir, L'émission s'appelle Gabriel, Maurice Claude et les autres, et je ne commence pas par une composition de l'un de ceux-là, sauf le générique qui est de Gabriel Fauré. Je vous dirai quoi à l'occasion. Donc, nous allons continuer. Voilà, c'était important quand même de préciser ça. Alors, deux choses. Il a commencé donc aussi dans l'église Saint-Méry, mais l'orgue qui avait été un peu détruit pendant la guerre suffisait pour faire les mariages, les baptêmes, les enterrements qui à l'époque étaient très usuels dans les gens qui avaient de l'argent, ou même pas forcément, mais quand même d'avoir ce type de cérémonie. Donc l'orgue en l'état de l'église Saint-Méry pouvait suffire, mais lui ça lui suffisait pas, donc il a été nommé à la Madeleine, qui était l'église officielle de l'Empire, hein, puisque là on est avec Napoléon III. Donc voilà, c'est comme ça, hein, je vais pas critiquer au-delà du raisonnable. Donc la musique et d'ailleurs, juste pour finir, il disait très précisément qu'il n'avait jamais été et qu'il ne sera jamais de la religion wagnérienne. Voilà, c'est exactement ça qu'il disait. Donc nous allons maintenant écouter ça pas vraiment, je vais pas rentrer dans les histoires de tonalité, de résolution, parce que ça va, si vous voulez avoir vraiment des choses sur YouTube, il y a un musicien qui fait toutes les explications sur les modes, la manière d'harmoniser tout ça. Bon, là je pense que ce qui est intéressant c'est d'écouter, et puis si vous avez envie vous ferez l'analyse, mais dans le premier mouvement, on peut quand même juste noter deux, trois choses. C'est qu'il commence par un thème qui est très inspiré de Mendelssohn ou de Schubert, au choix. Enfin bon, voilà. Hein. Donc, tout ça est un peu dans l'air. Alors, le second mouvement, alors là, ça va ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus presto. Hein. Ça va s'agiter. Et puis, vous allez reconnaître le thème de Beb, donc, qui a été utilisé dans cette espèce de petit reggae façon petite souris. Voilà, c'est parti lent. Gabriel, Maurice, Claude et les autres, GMC+, sur Radio Libertaire 89.4. Alors, on voit dans cette dernière partie que le côté plus majestueux ou de l'accord de Do mineur, on va vers un Do majeur, donc l'ambiance change. Et on se rend compte aussi à quel point le cinéma s'est inspiré, enfin, les musiques de films se sont inspirées des compositeurs français. Quand c'est pas pour le reprendre carrément dans les vraies orchestrations, je pense à Ocean Eleven, notamment, où ils reprennent le Clair de Lune de Debussy, enfin, nous aurons l'occasion d'en reparler, évidemment. Mais l'écriture cinématographique, je pense à Dimitri Tomkin, par exemple, ou d'autres, sont complètement inspirés par ces compositeurs français classiques. Alors, juste, évidemment, deux, trois choses supplémentaires. J'aurai évidemment l'occasion de revenir sur la biographie de Saint-Saëns, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois qu'il a donné de l'argent pour défendre Dreyfus, le capitaine Dreyfus, lors de son procès. Donc voilà, c'était quelqu'un qui avait une certaine, comment dire, conscience politique. Mais lui-même a été en but à de la critique à ses débuts et il n'a pas eu vraiment de clairvoyance à la fin de sa vie puisqu'il a été scandalisé par le Sacre du Printemps de Stravinsky présenté par Nijinsky où il n'a pas du tout apprécié. Alors qu'il a eu comme élève Fauré et Ravel, hein, qui quand même l'ont toujours défendu. Il a été très comment dire, il a bloqué Debussy. Enfin, Debussy en a gardé vraiment beaucoup d'amertume, parce que sur les concours, sur le fait que Debussy aurait pu être comment dire. Candidat à des prix et Saint-Saëns a dit des choses assez désagréables et totalement injustifiées sur Debussy. Donc voilà, comme quoi on peut avoir au début de sa carrière des bonnes choses et en vieillissant, ben malheureusement, ça n'est pas toujours forcément bien passé. Alors. Nonobstant, puisqu'il nous reste quand même un petit peu de temps, je voudrais vous faire écouter deux versions d'une musique évidemment que vous connaissez largement, puisqu'elle a fait aussi l'objet de dessins animés, je crois même que Charles Trenet l'avait faite, on la retrouve dans la bande dessinée d'Hugo Pratt, Corto Maltese. Il s'agit évidemment de la danse macabre. Alors la danse macabre, elle a été créée La composition a été achevée en 1874 et la première création au théâtre du Châtelet, ça a été le 24 janvier 1875. Voilà. Alors il s'agit de Danse macabre opus 40. Et sur un poème d'Henri Casalis, Égalité, Fraternité, tiré des heures sombres, et c'est la quatrième partie de son recueil, L'Illusion, qui, elle, était parue en 1875. Donc, ça a été joué la première fois sous la direction d'Édouard Colonne, hein, les fameux concerts Colonne, qui, je crois, existent toujours, il me semble, je ne suis pas sûr. Alors, contrairement à la légende, la danse macabre n'a pas été sifflée, elle a reçu plutôt un bon accueil au départ, ni à la seconde audition, et puisque le 7 février 1875, l'orchestre Colonne a dû même la jouer une deuxième fois. Alors par contre, le 24 octobre, chez l'orchestre Padeloup, là, ça s'est pas du tout passé du tout de la même manière. Donc ça s'est plutôt assez mal passé. Alors l'orchestration est assez particulière puisque il va ajouter dans l'orchestre classique à cordes des xylophones. Mais lui-même disait que les xylophones allaient dans la danse macabre, je vais vous expliquer, figurer en fait les squelettes. C'est une musique un peu figurative, hein, comme disait Henri Texier. Et donc, il y a la version orchestrale, nous allons en écouter deux. Et il y a aussi une version pour piano et chantée avec piano réduction d'orchestre. Et avec le texte qui suit, je vais vous lire le texte. C'est pour ça que je dis que vous allez pouvoir retrouver quelques allusions dans la bande dessinée Corto Maltese. Alors voilà ce que dit le poème. Ça commence comme ça. Il dit « Zig et zig et zig, la mort en cadence, frappant une tombe avec son talon. La mort à minuit joue un air de danse, zig et zig et zag sur son violon. » Le vent d'hiver souffle et la nuit est sombre, des gémissements sortent des tilleuls, les squelettes blancs vont à travers l'ombre, courant et sautant sur leur grand linceul. Zig et zig et zig, chacun se trémousse, on entend claquer les os des danseurs, un couple lascif s'assoit sur la mousse, comme pour goûter d'anciennes douceurs. Zig et zig et zag, la mort continue de racler sans fin son aigre instrument, un voile est tombé, la danse est nue, son danseur la serre amoureusement. La dame est, dit-on, marquise ou baronne, et le ver galant, un pauvre charron. Horreur, et voilà qu'elle s'abandonne comme si le rustre était un baron. Zig et zig et zig, quelle sarabande, quel cercle de mort se donnant la main. Zig et zig et zag, on voit dans la bande le roi gambadé auprès du vilain. Mais psit, tout à coup, on quitte la ronde, on se pousse, on fuit le coq à chanter. Oh, la belle nuit, pauvre le monde, et vive la mort et l'égalité. Alors évidemment, c'est un texte un peu diabolique, pour pas dire diablotin. Voilà comment ça se passe, en fait. Hein. Vous allez écouter, minuit sonne, les 12 coups de minuit arrivent, Satan va conduire le bal, la mort apparaît, elle accorde son violon et la ronde commence, presque furtivement au début, s'anime, semble s'apaiser, repart avec une rage accrue qui ne cessera qu'au chant du coq. Le sabbat se dissout avec le lever du jour. Alors nous allons écouter la première version, qui est une version, je dirais, entre guillemets, traditionnelle, de Léopold Stokowski, du National Philharmonic Orchestra, qui date de je sais plus quand, mais qui est pas toute jeune. Et puis ensuite, nous écouterons une version plus récente, plus percussive, vous allez voir. Voilà, c'est parti. On commence par Stokowski. Alors, est-ce que...
Attends, c'est celle-là, je pense. C'est pas la Malgorzata.
Non. Okay. Voilà. C'est parti. Thank you. GMC+, Radio Libertaire 89.4. Alors nous allons écouter la deuxième version qui est beaucoup plus percussive, qui a beaucoup de vibraphones, de xylophones. Alors c'est l'orchestre, c'est le Camerton Orchestra from Kosali Music School. Il s'agissait d'un orchestre d'étudiants lors d'un concert au concours, une compétition dirigée par Malgorzata Kobierska, qui est la chef d'orchestre. Donc ce sont des jeunes qui passaient une compétition orchestrale. C'était enregistré en 2014. Alors juste une dernière chose quand même très importante, c'est que lorsque le violon s'accorde, il va on sent que c'est un peu dissonant parce que il va faire ce qui était a priori interdit, déterminé par le système de Guy d'Arezzo, celui qui a donné les notes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la quinte diminuée, ce fameux Diabolus in Musicae, qui est le triton, c'est-à-dire la quinte diminuée ou la quarte augmentée, comme vous voulez, donc un accord qui est un peu bancal, qui nécessite d'être résolu. Et donc là, c'est ce qui donne cette instabilité, ce côté un peu dérangeant et diabolique, puisque évidemment c'est minuit sonne, Satan va conduire le bal. Donc voilà cette dernière version. J'espère que cette première émission vous aura plu, passionné comme je l'espère. Nous continuerons évidemment sur le même type avec tellement d'œuvres possibles. Je voudrais essayer de vous faire découvrir le maximum de choses. Rendez-vous la semaine prochaine pour Jazz Lib avec malheureusement un hommage au guitariste Sylvain Luc qui nous a quittés hier. C'est une très très triste nouvelle, voilà. Écoutez, GMC+, c'est une nouvelle aventure, j'espère que nous la vivrons longtemps encore ensemble, et malgré tout, je vous dis quand même Fraterni Swing, voilà, c'est parti. Thank you.
Dame du dessus, je l'imagine, 30 ans plus tôt, virevoltant du nord au sud à sa cuisine. Voyage, voyage, et jamais le temps. La dame du dessus habitait là, bien avant moi, bien avant toi, on ne savait pas. La dame du dessus, l'avais-tu vu ou entendu? Dis-moi pourquoi n'a-t-on rien su? La dame du dessus, je l'imagine, après sa chute en ambulance, dernier voyage de sa cuisine à l'hôpital et en silence. Maintenant au-dessus, après, dis-moi, un homme est là, la dame n'y est plus, et c'est pourquoi. Maintenant au-dessus, j'entends des voix, on éternue, et les bois craquent sous des pas. C'est quand j'ai su qu'elle vivait là, inaperçue, qu'elle n'y était plus.
Et qui s'éclaboussent avec leur lutte, les